sur votre radio locale, une chronique pour comprendre l'économie avec Max.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil.
Max Deleval, bonjour.
Bonjour Laura, bonjour à tous.
Aujourd'hui avec vous, on parle de l'État-providence. Nous avons déjà abordé cette question à propos de la dette publique, mais si on faisait un peu d'histoire aujourd'hui?
En effet, la science économique est née du débat sur la place de l'État. Pour la majorité des économistes classiques, il doit se limiter aux fonctions régaliennes, la sécurité intérieure et extérieure et la justice, et au cas d'échec du marché, il doit s'occuper des infrastructures de transport et de l'éducation. Selon Malthus, en particulier, il n'est pas de la compétence de l'État de procurer aux pauvres ce que la divine providence leur a refusé, ni aux riches d'ailleurs. La doctrine du marché autorégulateur va détruire les anciennes protections de proximité, comme la famille et la communauté. Mais les crises et l'industrialisation ont révélé les failles du marché et la vulnérabilité des ouvriers. Il faut relire Marx et Villermé, par exemple, et de nombreux romans de Hugo ou de Zola.
Alors, quels sont les fondements de l'État-providence?
L'histoire du débat sur l'État-providence se noue autour de l'opposition entre un individu responsable et un individu protégé, y compris dans son irresponsabilité. On pensait sur cette base pouvoir distinguer le bon pauvre, victime malgré lui d'un problème et qu'il fallait aider, et le mauvais pauvre, dont le comportement était seul en cause. Les politiques sociales libérales ont été des politiques de responsabilisation des individus, dont les caisses d'épargne et de prévoyance ont constitué le symbole historique.
Et d'où vient alors la rupture idéologique?
La frontière entre droit et responsabilité s'est effritée. La construction de l'État-providence a supposé que les situations sociales objectives ne dépendaient plus des comportements, que c'était des situations de vie, des accidents, qui sont en quelque sorte dépersonnalisées. L'idée même d'assurance sociale reposait sur une définition du risque, comme un fait statistique, extérieur à la responsabilité des individus. À la fin du XIXe siècle est dépassée la vieille contradiction entre responsabilité individuelle et droit collectif. La maladie, l'invalidité, le chômage sont compris comme des faits sociaux. D'abord quelques chiffres. Les fonctions de solidarité l'emportent désormais sur les fonctions régaliennes. Le taux de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire impôts plus taxes plus cotisations sur le PIB, est passé de 10% en 1900 à environ 48% aujourd'hui.
Comment on explique la croissance de l'État-providence?
Eh bien, le développement économique nécessite une augmentation des dépenses de l'État plus rapide que la production, en raison des investissements en infrastructures et en éducation notamment. Dépenses qui ne peuvent être engagées par des opérateurs privés. Mais au sens large, l'État-providence intervient dans la régulation conjoncturelle, les services publics et les transferts sociaux. Au sens étroit, il s'agit de l'État social. Il vise à libérer l'homme du besoin en le couvrant contre les risques sociaux, maladies, vieillesse, famille et chômage. Nous aborderons les crises de l'État-providence dans une autre rubrique.
Eh oui Max, dès la semaine prochaine il me semble.
Eh oui, à bientôt donc.
Merci pour ta chronique.
À bientôt.
Pour plus de chroniques éco avec Max, rendez-vous sur le www.radiopfm.com.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil, à Créteil.